Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir et merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la 93.5. Vous savez que le rendez-vous, c'est chaque jour de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a décidé ce lundi 16 juin la suspension pour une durée de 3 mois de la diffusion de France 24 et de Radio France Internationale RFI sur le territoire togolais. Cette mesure fait suite, explique l'institution, à des manquements répétés déjà signalés et formellement rappelés en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits. Selon le régulateur, plusieurs émissions récentes ont relayé des propos inexacts, tendancieux, voire contraires aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays, et de rappeler le pluralisme des opinions n'autorise pas la diffusion de contre-vérités ni la présentation partielle de l'actualité. Les règles qui encadrent le journalisme au Togo s'appliquent à tous sans distinction, a-t-il rappelé. Nous aborderons le sujet dans cette émission Club de la Presse et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Nous parlerons de tout cela dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 17 juin 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itekosi d'ATV assure la mise en onde. Il est également à la mise en ligne lors de cette émission. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous, alors qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, confrères journalistes déjà en studio, puisque l'équipe de mardi s'est déjà mise en place. Isidore Color, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères sur le plateau, bonjour à l'invité, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Togolaisement bien.
D'accord. Et Eric Pacoudio-Johnson, je ne sais pas s'il va aussi togolaisement bien. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour.
D'accord, j'espère que vous allez bien aussi.
Tout va bien, merci.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi.
D'accord. Jean-Baptiste Satisso, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et j'espère que vous allez bien.
Ah.
Décidément, vous avez de la peine à dire comment vous allez.
En tout cas, l'essentiel, nous avons le souffle.
C'est l'essentiel.
Le reste, Dieu va parfaire.
Voilà. L'autre confrère également qui regagne l'équipe alors de mardi, c'est bien Esaïe Edo. Esaïe, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Oui, on rend grâce.
C'est l'essentiel. Je rappelle que vous êtes le directeur, enfin, vous êtes le rédacteur en chef du journal Focus Info. Et nous saluons même d'ailleurs le directeur de publication. Au passage, c'est bien Jean-Paul Agbo-Akolété. Nous le saluons au passage, puisque je sais qu'il suit beaucoup cette émission. Claude Assiobotis, bonjour.
Bonjour.
Là, je n'ose pas vous demander comment vous allez.
Ah, tu as deviné. Le pays est devenu un hôpital. Jean-Baptiste l'a dit, on garde le souffle, on a quand même le souffle. Je ne veux pas faire comme la plupart ou beaucoup de Togolais qui disent ça va très bien lorsque même ils sont sur un lit d'hôpital.
D'accord. Ce qui est sûr, vous êtes là pour que nous parlions littérature et nous aimons bien le faire dans cette rubrique ou chronique que nous animons, qui est dénommée la bibliothèque animée. Alors, Claude, c'est vrai que dans l'exploration des œuvres marquantes de la littérature togolaise, notre thématique intitulée « Corps de femme », « Femme d'esprit » sera centrée sur une œuvre que nous avons déjà analysée ici dans nos chroniques de mardi sous l'angle des faits historiques récupérés par la fiction togolaise. Cette œuvre, c'est le recueil de nouvelles, faits divers et d'espoir, plus précisément sa nouvelle phare, un fait divers de l'écrivain Rita Mesa Menda. Et ce récit qui restitue l'atmosphère folklorique du régime du parti unique d'antan au Togo nous montre, avons-nous dit, un pays perpétuellement divisé en collaborateurs et en comploteurs. Alors Claude, pour libérer un de ces intellectuels nommé Biova, sa femme Naomi est allée voir un général du régime militaire, un certain Saraka, son ancien prétendant, et était prête à lui offrir son corps pour l'aider à libérer son mari emprisonné. Et pour ses idées progressistes, bien sûr. Claude, est-ce que, selon vous, cette femme est une femme d'esprit?
Naomi, femme d'esprit, est-ce qu'elle est femme d'esprit pour avoir eu recours au service de son ex-amant pour sauver son mari, pas ricocher son foyer? C'est ça la question. Et d'abord, qu'une femme d'esprit, avons-nous dit? Bon, il y a deux choses qui identifient une femme par rapport à l'homme, le sexe féminin. C'est son infériorité physique par rapport à l'homme et son exubérance de sentiments. La femme est très sentimentale. Ça c'est prouvé au sens positif comme au sens négatif. Et femme d'esprit, nous désignons par là justement la femme raisonnable, parce que tout homme, tout être humain peut être raisonnable, la femme aussi l'est. Est-ce que Naomi est raisonnable en allant voir son ancien amant, en réalité son mari raté, devenu général en faveur de son mari réel, Biova? En réalité, la démarche n'a rien de condamnable. Nos amours du passé font partie de nos relations, bien sûr des relations secrètes. Et nos relations doivent servir à quelque chose. La faute ici, c'est que le Naomi s'est servi de ces relations, de cette secrète-là, pour s'avilir. Il a eu un comportement vulgaire. Et il est vrai, dans l'impasse, les hommes vulgaires utilisent souvent l'argent pour ouvrir des portes. Mais les femmes utilisent surtout la beauté de leur corps, comme l'âme suprême. Le comportement de Naomi est apparemment aux antipodes de son mari, qui a acquis une grande stature révolutionnaire pour avoir comploté contre le régime. Voilà. Pas comploté, c'est le regard de ceux qui dirigent le pouvoir.
Voilà. Oui, Claude, effectivement, c'est le général lui-même qui a refusé de profiter du corps de Naomi. Et quand elle vient rapporter à Biova sa rencontre avec son ex-amant pour le faire libérer, il dit à son homme, il ne m'a pas touché, c'est-à-dire le général. Claude, est-ce que cet argument est recevable? L'infidélité de la femme commence seulement sur un autre lit?
Je ne crois pas. les juristes parlent de tentative punissable. Ça veut dire l'intention même vaut l'acte, même si l'acte échoue. Hein? Ce n'est pas parce que vous avez tenté de voler et on vous attrape, vous dit bon, j'ai pas pris l'objet. En droit, ça ne veut rien dire.
On parle même d'ailleurs de tentative.
Tentative punissable. Et dans nos traditions même animistes rigoristes, il y a de simples gestes qui impliquent l'infidélité, vous le savez.
Oui, tout à fait.
Hein, la religion chrétienne est plus tolérante. Hein. Et le mot toucher, elle veut dire à son mari, elle ne m'a pas touché pour dire que... c'est un euphémisme pour dire... c'est un euphémisme utilisé par l'auteur pour dire « il ne m'a pas fait l'amour, je ne lui ai pas donné mon corps hein, ». Mais c'est un pur mensonge. Hein, c'est un pur mensonge. L'infidélité, ce n'est pas seulement au lit. Il y a des gestes hein, qui le prouvent. Au sens propre même, le général l'a prise dans ses bras hein, à un moment, bien sûr, non pas pour la caresser, mais par empathie, hein, pour lui enlever ça, parce que lorsqu'elle est arrivée, elle était en détresse, elle s'est stressée, hein, pour la calmer, ce général l'a pris dans ses mains, mais pas avec un regard charnel. Mmh. Vous voyez ça? Et donc c'est...
Non, mais ça peut commencer aussi par l'empathie.
Oui, bon, il y a l'inconscient, hein.
Oui,
bon, on peut toucher quelqu'un en croyant le faire. À faire un geste amical, mais ça peut s'interpréter.
Mais tout à fait.
Voilà.
D'accord. Mais Claude, comment trouvez-vous le comportement du général? Une jolie femme hein, qui veut vous donner tout son fruit et vous vous abstinez. Alors, Claude, Adam a-t-il peur alors du fruit défendu, fondu, comme le dira l'autre?
Et vous savez, le héros n'est pas toujours du côté qu'on pense. Le vrai héros dans ce récit court, c'est le général Saraka. Hein? Il n'est pas un anti-héros. Hein? Ce général que l'auteur nous présente au service d'un régime ubiesque et brutal ne manque pas d'une profondeur humaine. Hein? Vous savez, une des choses qui fragilise les hommes, reperchés dans la société, c'est le corps des femmes. Hein? C'est le corps des femmes. Et comment ce n'est pas pour rien que un certain islam cache leurs femmes sous des robes, on dirait des cagoules, hein, pour les arracher à l'appétit des hommes.
Et en somme, des prédateurs.
Voilà, en somme, le corps des femmes est une tentation, comprend une tentation épouvantable pour les mâles. Hein. Mâle comme homme, hein, pour les mâles, même ceux qui ont un profil dur. On l'a vu avec l'œuvre de Nicabou. Hein, les grands directeurs très durs se ramollissent comme un coton hein, en face d'une femme, d'une jolie femme. Alors, la preuve, c'est souvent les hommes qui violent les femmes. Souvent. Mais ce général a pu montrer. Et ce que le philosophe Lao Tzu appelle la force supérieure, ça veut dire se vaincre et non vaincre seulement. Après des tentations, il a eu comme tout homme en se trouvant devant une jolie femme dont elle connaît déjà le corps, elle a eu des tentations bien sûr, mais elle a pu démontrer à la femme là qu'il avait pour elle son ex là. Qu'il avait pour elle un amour authentique au-delà de son corps.
Hein? Un amour authentique.
Voilà, ce n'est pas parce qu'elle veut lui rendre service et en ce moment-là qu'elle va profiter de son corps. C'est très malsain de faire l'amour avec quelqu'un qui est à votre merci, qui devient pratiquement votre prisonnière. Hein? Mais elle a souvent que, contrairement aux hommes ordinaires qui aiment jouer avec le corps des femmes, hein? Hein, pour les hommes, souvent, le corps des femmes est un joujou. Hein, et ce général a pu dépasser ça dans cette situation solitaire. Hein,
Et je pense que nous, les hommes, on doit ressembler peut-être à ce général et arriver à maîtriser justement nos pulsions.
C'est l'idéal. Et beaucoup n'arrivent pas à le faire. Et ça aussi, cette sérénité-là, on retrouve ça souvent chez des militaires qui ont une grande force intérieure. Ils en ont aussi. Mmh. Ils ne sont pas seulement brutaux, contrairement à ce que les gens croient. Ils ont aussi une grande force intérieure.
Mmh. Claude, intéressons-nous à un autre personnage, c'est bien Biova. Et Biova qui se dit un cocu sans en douter une seule seconde. Et qu'est-ce qui explique sa rage, Claude? Et peut-on le dire ingrat?
Les féministes parleront simplement de machisme. Et on lui dira qu'il est macho. Et après tout, il y a une sincérité dans les démarches de Noémie pour aller voir son ex-amant. C'est pour sauver son mari. Elle n'est pas allée lui demander de l'argent. Elle est allée pour sauver son mari et son foyer. Et dans nos sociétés, si les conquêtes des corps des femmes sont considérées comme des prouesses, leurs victimes sont considérées comme des prostituées. Chez nous, le mari banalise son infidélité et seul de l'épouse est un scandale, nous savons bien.
Oui, tout à fait.
Oui, oui. Mais cela peut s'expliquer, parce que c'est les femmes qui portent les enfants. Lorsque le papa est voyou, bon, c'est moins grave. Mais lorsque la maman est voyou, on peut douter de l'origine des enfants. Est-ce que les enfants sont vraiment les enfants du père? On peut en douter.
On est toujours enfant de sa mère.
Mais bien sûr, on le dit comme ça. Mais généralement, la femme apparaît comme des bijoux de l'homme. Et même Mandela n'a pas eu le courage de pardonner à Willy après sa sortie de prison. C'est la faiblesse des hommes. Très macho, quelque part. On se demande si cela n'est pas même métaphysique, parce que n'oublions pas, dans la Bible, Ève est une partie du corps de Adam. Mais en réalité, je crois que c'est seulement psychologique et culturel. Vous allez dans certaines tribus au cercle polaire, vous savez, vous connaissez la meilleure hospitalité, c'est de vous offrir leur femme à passer la nuit avec leur femme. Vous voyez ça? Et vous voyez que c'est hautement culturel. Je crois que c'est culturel, c'est psychologique. Le récit de Rita Menda est un récit court, mais d'une densité, d'une richesse sociologique et psychologique, je dirais presque inépuisable. Et je crois que le thème central sur lequel on peut même revenir, et qui est aussi très riche, c'est l'amour conjugal à l'épreuve du tribalisme. Lorsque nous allons entamer ce thème du tribalisme dans la littérature togolaise, on peut revenir encore à ce récit.
D'accord, merci. On reviendra justement à ce récit. Merci beaucoup, Claude, d'être passé alors dans cette émission. C'est pas Isidore.
Est-ce que le général a pu sauver?
Bien sûr.
Ah, d'accord.
Il a fait. Et il a fait libérer tous les prisonniers.
Ok.
Parce qu'il est très écouté. Il a rendu service. Et c'est ce qu'on appelle le vrai service.
Justement, le vrai service.
Il n'a pas voulu polluer la femme, oui.
D'accord. Et Eric?
Non, je pense que c'est totalement atypique de notre société. Quand vous prenez cette œuvre-là, c'est des situations que tout le monde trouve ordinaires, dont on regarde tout à fait le contraire. Et ça fait partie de nous. Et on ne peut pas nier ces situations-là, mais on est en train de chercher ici la norme. La norme qui, en réalité, pour moi, n'existe pas. Et comme je le dis toujours, il faut une exception pour confirmer une règle. Et voilà.
Voilà, il faut une exception justement pour confirmer une règle. Jean-Baptiste?
Oui, je crois que...
C'est pourquoi les héros sont rares.
Oui, souvent les héros sont rares, je suis d'accord. Oui, Jean-Baptiste.
Oui, mais je crois que, bon, comme on le dit, nous avons une société qui est régie par une morale. Et cette morale exige à ce que nous nous surmontions nos émotions, et nos émotions, surtout nos passions.
Nos pulsions
aussi, tout à la fois. Donc, c'est le lieu, quand même, de dire que l'œuvre dont notre ami a encore ravivé la mémoire, et c'est une œuvre dont nous devons nous servir et nous l'approprier au quotidien. Parce que, vous savez, à la moindre tentation, vous tombez et puis vous serez peut-être la risée du monde entier aujourd'hui avec la technologie. Donc, il va falloir que nous ressaisissions et nous soyons sur nos pas.
D'accord. Esaïe ?
Non, mais sur ressaisissement, je crois que c'est ce qui revient à tout le monde et c'est ce que nous enseigne l'ouvrage. Et donc, il serait intéressant quand même que tout le monde cherche à le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, pour justement s'informer et prendre des décisions pour justement ne pas enfreindre aux règles de la société, comme on le dit bien.
D'accord. Merci beaucoup, Claude.
Rita Amenda, c'est la maman de Patrick.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est la maman d'accord. De Patrick. J'ai tout compris.
D'accord. Ok, merci. Qu'est-ce que vous avez compris, Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. On se retrouve le mardi prochain. Merci d'être passé. Oui, on parlait tout de suite à l'heure de la morale et aussi nous savons qu'il y a des autorités morales. Quand on parle d'autorité morale, je pense quand même qu'on parle aussi des évêques. Les évêques se sont prononcés, hein, on le sait très bien, sur la vie sociopolitique à l'heure du pays. Et Eric, vous êtes revenu sur cette réaction des évêques ou de la conférence des évêques du Togo. Vous écrivez ce matin de l'usage des réseaux sociaux, la conférence des évêques du Togo contre la culture du mensonge et de désinformation.
Oui, évidemment, la conférence des évêques du Togo était en session du 10 au 13 juin passé. Et donc, ils ont eu à évoquer la situation sociopolitique du Togo de ces dernières semaines. Et donc, ils ont eu à relever quand même qu'il y a beaucoup d'informations qui pullulent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas des informations qui permettent le vivre ensemble. C'est là qu'ils parlent de la culture du mensonge et de déformation. Ils le disent clairement. Je crois que eux-mêmes, ces évêques-là, eux-mêmes ont été victimes de cette désinformation-là, puisqu'il y a une information qui a circulé, soi-disant que désormais, à l'église, on ne va plus faire de quêtes.
Eh bien, justement, j'ai lu cela sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux.
Ils ont rapidement démenti aussi cela.
Et voilà, donc, c'est des situations que les prêtres ont essayé d'analyser et ils ont quand même publié leur communiqué, enfin, c'est le communiqué de leur session-là, la session du 10 au 13. Et en parlant de la situation sociopolitique, ils ont remarqué quand même que, évidemment, il y a beaucoup d'informations, non seulement les informations, mais également des images qui ont été traitées par intelligence artificielle, des images venues d'ailleurs qu'on a attribuées tout de suite à des concitoyens, à des autorités, à des personnes morales de nos sociétés, même à des journalistes. C'est toutes ces informations-là pour la conférence des évêques du Togo ne sont pas de nature à permettre le vivre ensemble que nous tous nous souhaitons. Et donc, vous savez, lorsqu'il y a votre image qui est tronquée, et ce n'est pas vous seul que ça touche. Ça touche toute une population, tous ceux qui sont proches de vous, de vos parents, vos amis, vos enfants, et pratiquement tout le monde autour de vous. Et donc, quand c'est comme ça, c'est difficile pour les gens d'accepter, les familles d'accepter que les images de leurs parents sont tronquées. Et donc, je crois que c'est un appel que les évêques sont en train de lancer pour que nous puissions savoir que En le faisant, c'est que nous sommes en train de tuer petitement des personnes. Et je crois que c'est de la même manière que les autorités aussi ont fait paraître des communiqués pour demander quand même un peu de bémol dans ce que nous recevons des réseaux sociaux et que nous publions également pour que nous puissions vivre pleinement ça.
Isidore, c'est vrai qu'au-delà de cet interpo, du moins de cet appel lancé sur le mensonge et aussi les informations, les évêques se sont également les éleveurs ont réagi sur la vie sociopolitique, même d'ailleurs du pays économique aussi. Et il y a le journal Le Correcteur qui est revenu sur le sujet. Le journal écrit: situation sociopolitique tendue au Togo, un nouvel appel des évêques. Et effectivement, quand vous lisez juste cette énième réaction des évêques, on comprend tout simplement que l'appel est lancé aux acteurs politiques d'aller vers le dialogue.
Ah mais, qui va convoquer le dialogue? C'est l'autorité, ou les autorités, ceux qui sont à faire aujourd'hui, mais elles font la sourde oreille, elles font le dos rond. C'est la situation. Personne ne souhaite le déluge pour le peuple togolais. Mais quand on fait la sourde oreille, on n'entend rien, on fait comme si, bon, devant il n'y a personne, et on va gérer le pays comme bon nous semble. C'est ça qui énerve. Ce qui s'est passé la dernière, mais ça a échappé à tout le monde, y compris nous, les hommes de médias. Tout le monde a été surpris par la révolution du 5 et 6, surtout pour le 5, ça personne ne s'y attendait, que notamment les jeunes vont sortir dans la rue pour contester le pouvoir. Ça, c'est dans l'histoire du Togo, ça ne s'est jamais passé. Bon, revenons maintenant à l'appel des évêques, mais ils ne peuvent rien. On a déjà dépassé et l'ère du numérique 2.0. Nous sommes maintenant à 3.0 avec l'IA. Personne n'y pue. On ne peut pas ça. Mais sans l'éducation aux médias et l'information, beaucoup de personnes vont tomber dans ce piège. Il faut toujours vérifier les informations, voir les images. Mais combien de Togolais, même nous les journalistes, avons des outils de vérification de l'information, fact-checking, c'est très important. Et ça passe par l'éducation aux médias et l'information que beaucoup de peuples ont déjà dépassé. Mais on évolue là-dedans, mais n'ont pas encore résolu le problème de la désinformation. Je ne voulais pas parler de la mésinformation, parce que c'est deux concepts tout à fait différents. Donc, éduquer la population, et ça passe par l'éducation aux médias et l'information. Certes, nous avons eu à créer l'association, mais on n'a pas les moyens de nos objectifs.
D'accord. Oui, Zahir, c'est vrai que quand on lit le communiqué du 26 mai de la conférence des évêques du Togo, on note quand même quelque chose de très important, c'est cet appel au dialogue, et un appel lancé justement à l'endroit ou à l'intention surtout des acteurs politiques, et également le dernier communiqué, on note également ce dialogue, mais finalement, est-ce que les évêques seront écoutés? C'est ça la question.
Non, mais je pense que si les évêques continuent de lancer l'appel, c'est parce qu'ils espèrent qu'ils soient écoutés. Et s'ils sont écoutés, je crois que c'est la meilleure chose qu'ils souhaitent pour le pays. Et d'ailleurs, c'est ce que nous tous souhaitons. Il n'y a pas que des évêques qui lancent l'appel au dialogue. Il y a aussi la société civile, il y a les partis de l'opposition qui lancent également. Cela voudra dire que quelque part, le dialogue s'impose aujourd'hui, en tout cas dans la situation actuelle du pays. Nous tous, nous connaissons la situation. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect politique, mais également de l'aspect social. D'ailleurs, s'il y a eu une manifestation les 5 et 6, c'est parce qu'il y a un problème social. Et si vous suivez bien ou vous écoutez bien ceux qui étaient sortis dans les rues, ce n'était pas pour réclamer quelque chose de politique, mais c'est plus sur le plan social. Ce qui voudra dire qu'il y a quelqu'un ou il y a des personnes qui attendent quand même qu'on les écoute. Et les évêques ne font que jouer le rôle de porte-voix de toutes ces personnes-là qui espèrent qu'ils soient attendus. Maintenant, nous tous, on est là, on attend. Est-ce que cet appel sera attendu? Parce qu'il le faut. Si nous prenons les événements qui se déroulent aujourd'hui dans le pays, d'ailleurs, si nous remontons depuis l'annonce de la modification ou encore du changement de la Constitution, ça a été suivi de la promulgation de cette Constitution, récemment avec la désignation du président du Conseil, le président de la République, et les manifestations récentes. On se rend compte qu'effectivement, il y a une situation dans le pays qui ne plaît pas, en tout cas, je ne dirais pas à tout le monde, mais ça ne plaît pas quand même à certains. Et si on est dans un pays où il y a une situation et il y a déjà des personnes qui sont satisfaites, d'autres ne sont pas satisfaits, ce qui voudra dire que les deux camps doivent s'asseoir pour justement discuter, pour trouver une solution. Et c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. Et on espère vivement que d'ici là, il y aura quand même ce dialogue, même si ce n'est pas un dialogue organisé comme ce qu'on a vu dans le passé où on réunit des acteurs politiques et tout. On attend quand même la réaction de l'autre côté. Vous avez vu la manifestation la fois dernière, jusque-là, il n'y a pas eu une réaction de l'autorité publique pour dire, ok, on a compris ce que vos cris de cœur, voilà ce que nous allons faire. Jusque-là, il n'y a pas ça. Donc, le dialogue en question ou encore l'appel des évêques, pour moi, je pense qu'il ne s'agit pas de réunir les gens dans une salle comme on a l'habitude de le faire, mais que l'autre camp, je veux partir de ceux qui dirigent aujourd'hui le pays, puissent réagir également quand les autres sont entre les cris de la population.
D'accord. Oui, Jean-Baptiste, est-ce que vraiment vous avez l'impression qu'on a besoin du dialogue aujourd'hui? Parce que quand on prend déjà le journal Le Correcteur qui écrit flambée des prix en cascade consécutive à la hausse des tarifs d'électricité, aide aux spéculations, mais au-delà de tout, est-ce que ce n'est pas juste le pouvoir public alors de prendre des décisions et que finalement on n'a pas besoin alors d'un dialogue?
Je crois que si nous nous référons au fait que nous avons vécu au Togo pendant 20 ans, 30 ans, parler aujourd'hui d'un dialogue, comme les évêques le disent, je crois bien qu'il s'agit d'un dialogue politique parce que leur recommandation se situe bien dans le cadre de leurs recommandations sur le plan sociopolitique. Et donc, il est quand même un peu, peut-être, pas très sûr aux Togolais de s'attendre aujourd'hui ou bien d'attendre aujourd'hui à un dialogue politique qui va quand même permettre de résoudre les problèmes du Togo parce que on est tellement habitué, parce qu'au moins il y a près d'une trentaine de dialogues qui ont déjà eu lieu, mais dont les recommandations n'ont pas été mises en œuvre, n'ont pas été implémentées, parce qu'il n'y avait pas une bonne volonté d'accompagner ces recommandations qui étaient issues des différents dialogues précédents. Donc aujourd'hui, si les évêques parlent d'un dialogue, il est bien vrai, ils sont des autorités morales, et c'est ce qu'ils peuvent exiger, mais au-delà de ça, peut-être le pouvoir public aujourd'hui, qui gère les affaires, doit quand même aller au-delà de ce dialogue politique parce que, les recommandations, si on le dit, c'est que le pouvoir n'a pas vraiment eu une bonne volonté de mettre en œuvre toutes les recommandations de ces différents dialogues depuis les années 2000, surtout 2005, après la mort de Yadema jusqu'à alors, tous les dialogues qui ont eu lieu dans notre pays n'ont pas suivi vraiment des faits. Et vous savez même comment on parle des évêques. Peut-être je vais vous étonner avec la CVJF qui a été présidée par feu Monseigneur Barriga. Et à-dessus de ça, il y avait surtout l'une des recommandations de la CVJF avait porté sur la limitation du mandat présidentiel concernant l'article 59 de la Constitution de la 4e République. Il y avait une recommandation en ce sens. Ça n'avait pas été mis en œuvre jusqu'à ce qu'on arrive en 2009 où on a fait un semblant pour amener cet article-là, pour limiter les mandats en 2009. Et patatras, on est en 2024 et puis on change carrément la Constitution pour faire déboucher le pays dans une nouvelle République. Et vous savez bien, peut-être il y avait une confidence, Monseigneur Barriga, lors d'un atelier à l'hôtel de Berceau à Noche, là, bon, je me rappelle encore, il était très, très haut, c'est-à-dire qu'il était sur ses nerfs. Bon, on ne dirait pas un évêque le jour-là, parce qu'il était question quand même de désigner surtout celui qui devait diriger le l'institution que
Ashkoum surtout la mise en œuvre du livre blanc
du livre blanc justement livre blanc. Et donc ça dit que tout était il y avait des sollicitations du pouvoir qu'il était que Monseigneur Barriga soit à la tête du Ashkoum, mais vu et le mépris dont le pouvoir l'avait comblé lors des travaux de la CVJR, Monseigneur a refusé l'offre d'être à la tête du Ashkoum. Donc c'est pour dire que le pouvoir, quand on parle de dialogue, le pouvoir n'est pas souvent animé d'une bonne volonté. Sinon, dans un pays, en temps normal, pour qu'il y ait réellement l'apaisement et la cohésion sociale dont le pouvoir parle tout le temps. Tantôt, un ministre sort, on veut la paix, on veut la cohésion sociale. Chaque fois, c'est le refrain qui est fredonné à tout bout de champ, mais cette paix et cette cohésion sociale n'est pas véritablement ce que le peuple cherche.
Merci Jean-Baptiste. Oui,
Isidore. Non, le Togo a-t-il besoin de dialogue? Je dirais oui et non. Oui, en ce sens que même dans une même maison, dans la maison, vous devez toujours dialoguer. Et surtout que les acteurs changent au jour le jour. Agbeibo n'est plus là, et Jikus Olympio est grabataire. Donc, les acteurs politiques...
C'est quand il vient de l'Olympio.
Voilà. Donc, les acteurs changent. On a toujours besoin de dialoguer.
C'est le même régime qui est toujours là.
Je n'en dis qu'on ne vient pas. C'est pile et face. Donc, on a toujours besoin de dialoguer. Même s'il n'y a rien, il n'y a pas de grabuche, on doit tout dialoguer pour faire prospérer et le pays. C'est très important. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de dialogue? Qu'en sortira-t-il de ces dialogues? Et qu'on ne connaît pas encore. C'est là où je dis non. Le Togo n'a pas besoin de dialogue
politique.
Pas seulement politique. Non, pas besoin de dialogue parce que nos gouvernants savent déjà ce que le peuple veut. Il suffit seulement de l'implémenter. Vous venez de le dire. Ils n'ont qu'à retourner et à cette trentaine de dialogues qu'on avait eu
avec leurs recommandations.
Avec des recommandations qui n'ont jamais été mises en application. C'est tout.
D'accord.
C'est pourquoi je dis qu'on n'en a pas besoin s'il y a une bonne volonté politique d'aller de l'avant.
Eric, c'est vrai que après les manifestations du 6 hein, juin dernier, on a constaté qu'il y a eu alors des arrestations et tout, et la FIDH nous signale ou nous annonce même d'ailleurs que 7 personnes au moins 7 personnes ont été torturées dans ces arrestations, c'est ce que la FIDH annonce. Après tout, est-ce que on n'a pas besoin juste alors est-ce qu'on a l'impression que finalement on a besoin alors d'une bonne volonté politique ou d'une bonne dose alors de volonté politique pour juste changer les choses?
Il faut le communiqué de la FIDH dit quoi? Est-ce qu'il a dit torturé? Attention.
Non, mais des traitements, bien sûr, on parle de traitements dégradants.
Oui.
Inhumains. Inhumains et dégradants.
Oui. Attention, parce que les mots ont leur poids et leur sens.
Oui, oui. En matière pénale.
Quand on dit torturé, là, on va carrément dans autre chose. Mais quand on dit que 7 personnes au moins ont déclaré que leurs droits ont été violés, qu'ils ont eu des traitements dégradants et tout ça.
Inhumains et dégradants.
Il faut bien peser les choses. Parce que
est-ce que ce ne sont pas juste alors des thèmes faux fuyants? Parce que
pas forcément.
Juste les choses.
Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y a eu des images qui ont été publiées montrant forcément des tortures. Et là, s'il y a eu ce communiqué qui n'a pas forcément dit que les gens ont été torturés, ce n'est pas un faux fuyant. Il ne faut pas qu'on déplace les mots. Ce que je veux dire, vous savez, lorsqu'il y a eu ces manifestations, au lendemain, disons, de ces manifestations, les informations qu'on avait eues, c'est que tous ceux qui ont été arrêtés, plus d'une centaine de personnes, ont été torturés, ont été battus, ont été... Et donc, si ça a alourdi l'atmosphère. Je crois que ce communiqué-là a permis de situer tout le monde par rapport à ce qui s'est passé. Toutefois, je n'accepterai jamais qu'on touche à un concitoyen parce qu'il a envie de dire quelque chose, parce qu'il a, il subit quelque chose et il veut dire clairement, attention, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas normal qu'on touche à un citoyen parce que c'est son droit quand même de dire qu'il n'est pas d'accord. La question qui se pose en ce moment-là, j'avais posé la question là la dernière fois en me demandant s'il arrivait quelque chose à ce qui était sorti, qui est responsable vis-à-vis de ces gens-là, de ces jeunes-là? Parce que aujourd'hui, imaginez que l'un de ces jeunes-là perdait sa vie. Qui? Les parents vont voir qui? Qui est responsable? Ou bien on peut laisser les gens aller mourir comme ça et on ne demande pas de compte.
Après tout, c'est des citoyens qui expriment leur...
Justement, c'est ce que je dis. Justement, c'est ce que je dis.
Les accusons.
Justement, c'est ce que je dis.
Isidore, Eric, s'il te plaît.
Tu peux me laisser parler.
Eric, s'il te plaît, vas-y.
Maintenant, j'avais posé la question de savoir quand le procureur a dit qu'il y a certains qui ont été libérés. Et j'avais demandé, mais ceux qui sont restés, ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont été pris en flagrant délit de casse, de vol, de je ne sais quoi? On a dit que les gens ont posé des barricades, des gens ont bloqué la voie, des gens ont fait... Oui. Pendant qu'on bloquait la voie, plus de panique, quelqu'un peut foncer sur eux pour dire « Moi, je veux passer » et ça peut engendrer quelque chose. Il ne faut pas voir ça uniquement du côté des forces de sécurité. Ça peut se passer. Et là, je dis qu'il faut forcément un responsable devant ces jeunes-là qui manifestent.
D'accord. Non, là, c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce développement parce que c'était un mouvement spontané. Même si c'était annoncé, les personnes ne s'attendaient
pas. Annoncé,
écoutez, on avait annoncé le mouvement pour le 6. C'était bien ça, non?
Tout à fait. Enfin, 5 et 6, bien sûr.
Non, on n'a pas dit 5.
Mais oui, c'est le
6. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 5? Le mouvement du 5 a été plus splendide que pour le 6.
Mais les arrestations, c'est plutôt pour le mouvement du 6.
Oui, évidemment, on n'a arrêté personne le 5.
Oui.
Mais ça veut dire que les gens ont exprimé leur ras-le-bol. Et même la constitution le permet. On n'est pas obligé d'avoir un leader.
Non. Est-ce qu'on est en train de parler de ceux qui ont été arrêtés ou bien de ceux qui ce dont les droits
moi je violé
je parle des deux on est en train
je
de parler
des deux
on est en train de parler
ce que tu dis
ce que tu dis
c'est comme si
la question qui est posée c'est par rapport à ceux dont les droits ont été violés.
Je n'en discute pas.
On parle du rapport.
Tu dis que
d'un rapport.
Ouais, mais maintenant tu dis que il faut attendre qu'un leader avant que les populations
sachent
que je suis. Je ne suis pas d'accord.
D'accord, d'accord. Alors ça. D'accord. Merci. Mais merci beaucoup. Oui, Esaïe. Moi, ma question.
C'est ça. C'est
ma question. Non, merci. Ma question, c'est concernant justement la violation des droits humains dans ce cas d'arrestation. Mais finalement, on est au 21e siècle. Mais quand on écoute encore parler des traitements inhumains et dégradants, mais est-ce que ce n'est pas quand même un risque pour le pouvoir?
Risque pour le pouvoir, bon, je sais pas s'il faut parler de pouvoir, mais il faut se poser la question. Qui sont ces personnes, qui sont les auteurs de ces traitements, et de qui ils ont reçu l'ordre avant de poser ces actes-là? Je crois que c'est la question qu'il faut se poser. Et maintenant, en dehors de cela, le rapport est sorti, on a vu des images, même si il y a eu des images qui datent des années passées qui sont revenues. Toujours est-il que, effectivement, il y a eu des traitements inhumains qui ont été posés sur des personnes qui ont été interpellées. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est quoi la suite? Puisque la réalité est là, le fait est là, ces personnes qui sont les auteurs de ces actes, qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes? Je crois que c'est la grande interrogation, parce que vous le savez, on ne peut pas dire que le 6 était la dernière fois qu'il y a eu une manifestation au Togo. On ne sait pas demain. D'ailleurs, il y a d'autres manifestations.
Tout à fait. Il y a Krak qui annonce également d'autres manifestations.
Justement, si aujourd'hui on se rend compte que voilà, effectivement, il y a eu ces traitements et que rien n'est fait. Et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure du dialogue, que le dialogue, ce n'est pas forcément se retrouver dans une salle, mais c'est aussi la réaction de l'autorité du pouvoir public. Quand il y a eu ces faits, les gens l'ont dénoncé, les organisations l'ont dénoncé. Qu'est-ce que le pouvoir public dit de cela? Si rien n'est dit, ce qui voudra dire que le risque est toujours là et que demain, quand il y aura encore eu d'autres manifestations, des personnes seront interpellées et ces personnes risquent de subir le même sort. Parce que quand il y en avait eu, on n'a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de punition. Donc, ce qui voudra dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où personne ne sait ce qui peut lui arriver demain. C'est pour cela, je le redis encore, il faut une réaction de l'autorité publique. Ne serait-ce que pour dire, nous avons pris acte, nous allons chercher les auteurs de ces actes et nous allons les punir selon ce qui est écrit dans la loi. Juste ça. Parce que même les personnes qui ont subi ça, qui sont là aujourd'hui et que voilà, c'est comme s'il n'y a pas eu justice, donc ils vont se sentir lésés. Et la population en général, ça constitue également un élément qui va motiver davantage la population à se révolter entre griffes. Parce que on se rend compte que les gens sont arrêtés, ils sont maltraités, et puis bon, les auteurs ne sont pas punis. Voilà, de l'impunité. Donc, il faut quand même une réaction. Nous avons le ministère de la Sécurité, même si on dit...
Le ministère des Droits de l'Homme.
Justement, même s'ils sont en train de gérer les affaires courantes, je crois quand même qu'il y a le cabinet qui est là. Il faut quand même une réaction de l'autorité pour ne serait-ce que rassurer.
Merci Esaïe. Oui, mais Jean-Baptiste, est-ce que vous comprenez le silence alors du pouvoir public ou de l'autorité dans cette question d'arrestation et tout?
Bon, le silence, je crois que ça rime avec le mépris. Ça rime avec le mépris parce que on ne peut pas comprendre que des troubles aient lieu. Vous êtes dirigeant d'un pays, les troubles ont lieu dans votre pays et que ça coïncide avec votre anniversaire de naissance. Vous ne dites rien concernant les crises qui secouent votre pays et puis, patatras, vous venez et vous tweetez et vous remercier ceux qui se sont souvenus de votre anniversaire. Je crois qu'on ne peut pas avoir un papa hein, qui soit aussi distant de son peuple. Ça ne s'explique pas. Un père aussi distant de son peuple, ça n'existe pas. Alors, ce mépris, peut-être, bon, il est là, il se dit, bon, ils vont faire, ils vont se fatiguer. C'est ça l'explication. C'est ça. Oui, deux semaines sans réaction.
Mais là, je parle de la violation hein, des droits humains.
Et justement, à propos, d'abord, ça, c'est la réaction de la première, la plus haute autorité du pays. C'est ça. Un papa très distant de son peuple. Maintenant, concernant les forces de l'ordre qui ont eu recours à la violence pour tabasser les personnes interpellées. Et on nous dit que c'est Adi Djolé, que ces bastonnades ont eu lieu. Alors, on connaît les agents qui sont là-bas. On peut facilement les identifier. On peut facilement les identifier et leur poser la question ce pourquoi ils ont battu, pourquoi ils ont fait violence.
C'est pas évident, hein. D'autres peuvent venir là-bas
et commettre ces exactions.
Non, non. Si d'autres sont venus... Je crois que la brigade de Dijolé a un responsable. Il y a un responsable. Le responsable n'a qu'à sortir et situer les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, le peuple attend. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens soient sortis pour exprimer ne serait-ce leur ras-le-bol par rapport à plusieurs situations. Il y avait les frais d'électricité aussi qui faisaient partie des revendications. Il y avait l'arrestation de
Amron
et il y avait la constitution aussi, la modification unilatérale. Tout ça a été mêlé. Donc quand les gens se sont exprimés par rapport à toutes ces situations, je crois que c'est leur droit le plus légitime parce qu'on ne peut pas aujourd'hui les frapper, porter atteinte à leur dignité pour dire que peut-être ils ont enfreint à quoi ? Quelle loi ? À quelle loi ces gens-là ont enfreint ? Et ça mérite aujourd'hui des violences physiques et puis des embastillements.
Merci.
Je voulais lancer un appel. Je voulais lancer un appel.
Allez-y, oui.
Et faut pas que la chienlit s'installe au Togo. Ce qui se passe actuellement, Eric vient de le dire, il n'y a personne qui est devant. Il n'y a aucun responsable. Donc, après avoir muselé la presse, caporalisé la presse, mais sous l'état noir,
les
partis politiques,
les OSC,
voilà, c'est le peuple qui se révolte. C'est un appel que je lance à Fonia Simbé, le PC, de comprendre ce message.
Eric, c'est vrai que quand on capte hein, la radio France Internationale depuis hier chez nous, cette radio n'émet plus alors vers le Togo, et puisque la radio a été suspendue, et aussi la télévision France 24 est suspendue, et il y a le journal Vision d'Afrique qui est revenu sur le sujet. Le journal écrit France 24 et RFI au Togo, les raisons d'une suspension à risque, et ces raisons bien sûr sont bien sûr dans le communiqué de la HAC, ce communiqué qui a été bien sûr publié hier, et dans ce communiqué on note que les mesures prises par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC explique l'institution à des manquements répétés déjà signalés, formellement rappelés en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits à ces médias. Et est-ce que vous arrivez à comprendre cette décision alors de la HAC?
Oui, comprendre la décision de la HAC, tu sais, je l'ai toujours dit, quel que soit le média qu'on cherche à faire taire ou à faire disparaître, je pense que par confraternité d'abord, je dois dénoncer cela. Et je le dis toujours, faire taire un média ne règle pas un problème. Mais lorsqu'il y a un manquement, il y a des voies légales pour réagir. Il y a par exemple le droit
de réponse.
Le droit de réponse qu'on doit adresser à l'organe.
Ou s'il vous plaît, on laisse Eric poursuivre dans ses idées, s'il vous plaît.
Et donc, je crois que logiquement, lorsque l'organe publie une information qui, selon les autorités, n'est pas vérifiée ou qui n'est pas équilibrée, on peut alors envoyer un droit de réponse à cet organe-là qui est obligé, parce que c'est ce que demande le code de la presse, qui est obligé de publier ce droit de réponse dans l'espace, dans le temps et avec les images qu'il faut pour rectifier quand même cette information. RFI, j'avoue que RFI et France 24 font partie d'un groupe qui travaille en collaboration avec la HAC. Et je ne comprends pas cette décision de la HAC, parce que ça va plutôt pénaliser la HAC, parce qu'ils sont en collaboration et la HAC bénéficie quand même de certains trucs de ce groupe français. Et donc, je crois que ce qui s'est passé, et comme il y a eu une réaction quand même de RFI, et qui dit que le groupe va prendre attache avec les autorités togolaises pour que cette histoire-là soit très rapidement réglée. Et je crois que ils auront une bonne écoute au niveau de la RAC.
Merci, Rick. Oui, Esaïe, est-ce que vous comprenez quand même la décision de la RAC?
Non, mais cette décision de la RAC, je ne peux pas le comprendre. D'abord, en tant que journaliste, par souci de confraternité, c'est une mesure ou encore une décision à dénoncer. Et au-delà de dénoncer cette décision, j'évoquais tantôt les situations du pays. Dans le contexte actuel, prendre une telle décision ne donne pas une bonne image au pays. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, le Togo c'est devenu un pays où c'est la loi du plus fort. Et si les gens ont cette perception sur notre pays, et que justement dans ce contexte une telle décision est prise, c'est quelque part donner raison à ces personnes qui ou encore à l'opinion qui voit le Togo de la sorte. Je parlais tantôt de l'annonce de la nouvelle constitution jusqu'aux récentes manifestations. Quand on voit un peu la réaction de l'autorité publique face à ces événements, on se rend compte qu'il y a quand même d'une manière, cette volonté de ne pas écouter les autres. Donc, c'est-à-dire de faire quand même ce qu'on a prévu de faire. Si on est dans cette situation, même si le pouvoir public n'est pas forcément d'accord sur cette perception, prendre une telle décision donne raison à ces personnes-là. Le doyen Eric l'a dit, même si le média a failli, supposons que le média a failli, il y a quand même des voies, des moyens, des dispositions pour rétablir la vérité. Et là encore, il faut le souligner, il y a des moments où quand vous suivez les reportages, que ce soit sur RFI ou France 24, ils disent clairement que les autorités ont été interpellés, mais ils n'ont pas accepté de donner suite. Or, c'était des opportunités pour l'autorité publique de rectifier justement ces informations qu'elle juge fausses véhiculées par ces médias. Et la sanction, c'est pour, ou encore la suspension, c'est pour 3 mois. Or, nous savons que dans les 3 mois, dans un mois, nous aurons les élections municipales, ce qui voudra dire que ces médias n'auront pas l'accréditation pour couvrir ces événements. Et dans une telle situation, nous savons les élections au Togo, tout ce qui se dit autour de l'élection, alors qu'on voudrait que les élections se déroulent de façon transparente et démocratique, mais quand il y a un certain média qui n'ont pas la possibilité de couvrir ces élections, déjà ça peut entacher en tout cas dans l'opinion, on peut voir comme si ce n'est pas une élection démocratique et transparente.
Merci Esaïe. Oui, Jean-Baptiste, c'est vrai que tout récemment, nous avons tous ensemble suivi cet éditorial alors de Jean-Baptiste Placa sur RFI, c'est sur la situation togolaise, bien sûr, et c'est dans des thèmes tout crus quand même que notre compatriote et notre confrère a fait vraiment cet éditorial. Mais est-ce que peut-être alors cet éditorial aussi en est pour quelque chose?
Oui, peut-être, puisque nous ne sommes pas dans le secret de ceux qui ont pris cette décision au niveau de la HAC. Mais vous savez, on dit souvent que la vérité blesse quand vous agissez mal et que l'on vous dénonce. Si vous n'avez pas un cœur ouvert, vous êtes toujours enclin à critiquer celui qui vous dénonce. Et je crois que c'est ça la situation que nous vivons dans notre pays, parce que tout ce qui se passe jusqu'à ce que ces deux médias ne soient suspendus hier, je crois que ce sont des vérités que nous vivons au quotidien au Togo. Il n'y a pas d'invention. Tout ce que ces médias ont dit, ce ne sont pas des inventions. Ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. Et donc, au niveau de la HAC, je crois qu'ils sont parfois complaisants dans leur prise de décision.
Pourquoi vous dites ça?
Oui, parce que vous savez, on ne peut pas, de par le passé, surtout quand on prend les années 2020-2021 jusqu'à 2022, vous allez voir comment beaucoup de médias togolais ont subi la foudre de la HAC, là, avec ses suspensions, tantôt c'est 2 mois, tantôt c'est 3 mois, tantôt c'est 4 mois. Donc il y a plusieurs médias togolais qui ont été victimes de ces sanctions de la HAC. Et maintenant, cette même complaisance est maintenant, cette foudre, j'allais dire même, est tombée sur ces médias français. Je crois que nos confrères et nos aînés qui sont à la HAC doivent vraiment mesurer leur démarche vis-à-vis des organes.
Merci Jean-Baptiste. Oui, Isidore, c'est vrai que le journal Vision d'Afrique parle plutôt alors des raisons d'une suspension à risque. Est-ce que vous pensez aussi que cette suspension est une suspension vraiment à risque?
Bon, je ne saurais le dire. On laisse le temps au temps. Et c'est le temps qui en jugera. Moi, je ne dis pas que la carte ne veut pas suspendre RFI ou TV5 Monde ou France 24. Non, l'un s'en faut. C'est un organe de régulation. C'est une institution qui mérite du respect. Vous vous souvenez, on nous avait convoqué, non? Pour une émission. Tu te rappelles?
Je me rappelle que
ce n'était pas équilibré. C'était ça. C'était ça. Moi, j'ai lu et relu, relire encore le communiqué. Ça souffre de beaucoup d'insuffisance. Qu'est-ce qu'on met dans
manquement?
On aurait pu nous situer l'opinion que telle émission. Sur telle chaîne, on connaît des dérapages et des manquements.
Mais dans le communiqué, il y avait quand même quelque chose de si précis.
Dis-moi.
On parle alors de manquements, bien sûr, en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits.
Quand? Est-ce que l'organe a publié? C'est ça qui est important. C'est ça le monitoring. C'est très important. Ça souffre. Partout où vous allez, moi, les gens m'appellent de l'extérieur, pour ça, je ne peux pas vous en parler ici. Mais ça nous discrédite. La décision n'est pas motivée. C'est un fourre-tout.
Merci,
Je suis désolé de le dire.
Merci.
C'est un fourre-tout.
Merci, Isidore. Merci, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. C'est le principe de l'émission. Ils vont réagir sur nos deux numéros 90 86 35 35, 91 36 63 75 et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonces.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour et nous reprenons l'antenne. Et maintenant, vous pouvez nous appeler sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, comment vous allez?
Ça va, monsieur.
Votre nom, c'est... Ah, monsieur Maouedan.
Oui,
allez-y.
Je salue le plateau.
Et le plateau aussi vous salue.
Ok. Moi, j'aimerais adresser à nos voyants force de l'ordre. Monsieur Pascal, chaque fois, c'est eux qui nous disent que la paix, la cohésion, la paix entre l'armée et la population. La manière dont eux-mêmes agissent là, monsieur Pascal, ça va vraiment instaurer la paix et la cohésion sociale. Monsieur Pascal, imaginons que cette dame a loué à un policier dans sa maison, ou bien un de ses mandats a loué à un policier dans sa maison. Est-ce qu'il y aura encore le bon vide dans cette maison? Je me rappelle, M. Pascal, l'autre, il y avait, je ne sais pas de quelle année, la CFC, bien la CFC a réclamé la reconnaissance des salaires, et ils sont sortis, les fonds de l'autre doivent être tabassés. Mais après, quand les retombées sont tombées, eux, on a augmenté le salaire aussi, ils ont pris. On a augmenté le salaire, je me rappelle, à 20 000, 20 000. Les fonds de l'autre, tout le monde a pris. Donc, ils n'ont qu'à prendre leur disposition. Si tu veux vraiment qu'il y aura la paix dans ce pays, ils n'ont qu'à prendre leur disposition. Je ne sais pas ça. Merci, bonne émission.
Merci, M. Maouedan, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour? Allô? 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 47 78 57. Bonjour.
Togbe de Zanguera.
Oui, Togbe de Zanguera. Allez-y.
Allô?
Oui, je vous écoute. Allez-y.
Oui, le grand frère vient de. Un journaliste, oui, vient de dire que la responsabilité, quand on va sortir pour manifester et autres, la responsabilité revient de droit à qui? Moi, je vais dire ceci, que on n'a plus besoin de leader. Hein. On n'a plus besoin de leader, on n'a plus besoin de responsabilité dans ce pays. Parce que la population avait des leaders. Je vais citer les quelques-uns. Tavia Morin, comment appelle-t-on Monseigneur Podro, Agbeyome, tous ces leaders-là que la population a choisi. Ben, le régime les a tués. Le régime les a tués.
Mais ce que vous dites, donc, c'est grave. Je pense qu'on doit maintenant savoir et regarder quand on utilise aussi les thèmes. Il faudrait quand même qu'on utilise. Nous sommes dans une émission de grande écoute et quand on veut utiliser les thèmes, s'il vous plaît, il faudrait quand même qu'il y ait de courtoisie dans les thèmes. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur Pascal.
Oui, papa Sibiti.
Bonjour, tout le plateau. Isidore, bonjour tous. Je voudrais venir en tant que papa sage. Tous les Togolais, vieux, jeunes, adultes, je vous prie, la désobéissance civile, il faut tout faire pour qu'elle n'arrive pas. Il faut que les acteurs politiques s'asseyent. Le Togo est un pays de paix. Voyez ce qui se passe. La désobéissance civile, c'est la débandade. Vous allez, quand ça arrivera, comme un de nos chefs, Fadil Bah Traoré, vous verrez votre pays, votre portail, vous ne pourrez pas rentrer dans votre maison. Donc, le professeur David Dosset le Tagone, qui parle. Ma fille à Djamago, asseyez-vous et entendez-vous pour qu'il n'y ait pas l'aide. Demain, quand vous allez prendre le pouvoir, quand on va décréter la révolution civile, attendez, ils ont décrété, nous avons vu ce qui s'est passé. Les jeunes que vous êtes là-bas, entendez-vous avec le gouvernement pour qu'il n'y ait pas la débandade au Togo. Il y a des leaders. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Siviti, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Papa Sodiné, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, allez-y.
Vraiment, moi, tout simplement, ce que moi je voudrais dire est que la façon dont nos agents de force ont bastonné ou ont blessé ou ont... vraiment, je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Si vous voyez les femmes, comment les femmes sont... Pas que les femmes sont des... Comment elles sont pour les battre comme ça? Non. Bon, ce n'est pas bon. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, Papa Sodiné. Merci pour votre intervention. Bonjour le plateau. Le Togo va de mal en pire. La loi n'existe pas quand les militaires tabassent et tirent sur les manifestants en tuant des deux jeunes à Gouaï et à Bé. La loi n'existe pas quand les milices à Dioui font de la violence sur les manifestants. Nos dirigeants sont les premiers à violer et qui violent les lois. La liste est longue. RFI et France 24 sont victimes de la dictature voilé en démocratie au Togo. J'ai honte pour le Togo. C'est Mohamed qui nous écrit depuis Casablanca. Allô? Oui, bonjour.
De l'amour. Bonjour.
Bonjour, Oseni. J'espère que vous allez bien.
Très bien, comme un ange au ciel.
D'accord, allez-y.
Je voudrais dire un grand merci à Papa Simeti. Papa Simeti a tout
Papa Simeti.
Oui, Papa Simeti.
Le nom, c'est Simeti. Simeti.
Ah, Simeti.
Okay. Allez-y.
Il a tout dit. Il faut dialoguer. Sans dialogue, on ne puisse rien. Donc, il faut dialoguer entre les deux parties. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup, Osini, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Je reviens, excusez-moi.
Voilà, Papa Sibiti qui revient.
Toujours la paix. La paix. Le pays là. Il ne dépasse pas la fin. Le président de la République, moi je l'ai appelé toujours comme ça. L'opposition, David Dosset, c'est quelqu'un que j'aime en tant que fils. Entendez-vous là. Vous qui êtes pas jeune, excusez-moi, j'ai peur. Entendez-vous. Quand vous allez quitter votre plateau là, allez, prenez les autres. Bientôt, Mingawa Yaolo. Et Nébanam.
Alors, voilà, je pense que Papa Sibiti a quitté. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, M. Gado.
Oui, bonjour, Plateau.
Oui, allez-y.
Ma question à M. Victor et Eric Johnson. Bon, RFI, bouc émissaire ou la peur au ventre de nos autorités. Merci et bonne journée. Moi, je ne dis pas sur les anciens. Merci.
Merci, Monsieur Gado, pour votre intervention. Bonjour, Pascal. C'est Modeste de Paris. Cette suspension de ces médias étrangers est un faux problème qui veut noyer son chien. L'accuse de la rage. Les élections municipales sont là dans quelques jours. C'est pour les empêcher de relayer leur magouille qu'ils ont choisi cette méthode très simple. Ils n'ont qu'à couper leur site Internet aussi. Sinon, moi, je vois qu'ils n'ont rien fait du tout. C'est bonne émission. C'est Modeste qui nous écrit. 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous avez votre radio à côté de vous qui fait un peu de bruit. Oui, diminuez un tout petit peu le volume de votre poste à côté de vous, s'il vous plaît. Allez-y.
Lorsque je suivais le développement de M. Eric Johnson, j'espère que ce développement, des fois, moi, ça me dérange. Vraiment, les gens n'ont pas assez de ici, non. On parle de tortue, si c'est pas fait, les gens ne vont pas la piquer, c'est donc. S'ils font une autre développement, c'est pas manière.
Allô, mon cher ami. Allô, mon cher ami.
Oui,
s'il vous plaît. Je veux plutôt que vous vous prononciez sur l'actualité. Et les journalistes sur le plateau se sont prononcés sur l'actualité. Ils ont leur manière également de décrypter l'actualité. Nous vous donnons la parole pour que vous aussi vous intéressez à l'actualité, que vous dites ce que vous pensez.
Ok.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'il est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Tout le monde nous donne encore l'occasion de recevoir notre dernier auditeur, bien sûr. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame ici.
Ah, bonjour. Je vous fais à tous là-bas un coucou. Ceci, voilà, ça, c'est tout le monde, quoi. Bon, la violence sur les femmes, sur la population, sur le pays, et c'est pas nouveau. Hein, c'est l'histoire qui se répète depuis plus de 6 décennies, 2005, tout le reste. dans l'impunité, c'est pour ça que ça continue. Hein, personne ne dit rien, on ne porte pas plainte et tout ça là. Et puis, est-ce que c'est normal de gouverner à la baïonnette, à la matraque, et à la violence toute la vie? Ils ne sont pas fatigués de nous violenter et de suivre la constitution qu'on fait donner. Hein? Ils l'ont cramé. Ils ont cramé notre Bible qui fait de nous un Togolais. Ils ont ôté notre dignité. Ils nous piétinent, on nous humilie. Et pourquoi? Hein? Jusqu'à gérer la République comme leur épicerie. Les institutions sont toutes périmées, depuis 10, 20 ans, 40 ans. Ça ne dit rien. Et maintenant, on ferme RFI et tout le reste. Pourquoi faire? Pourquoi faire? On va les charger sur le site, non? Sur les net. On va suivre. Et tout ça, là, c'est pour dire silence. Je tue, je brutalise, je fais du n'importe quoi, comme tous les pays africains. Merci.
Merci, Madame Essi, pour votre intervention. Je lis cette dernière réaction avant de vous donner la parole. C'est qu'on ferait pour vos mots de fin. Hein, et, bonjour, Pascal. Aujourd'hui, les Togolais et Togolaises sont fatigués avec ce qui se passe et la fermeture des médias internationaux. Un adage dit « Celui qui se sent morveux se mouche ». Et c'est Kokou hein, qui nous écrit depuis à Dido Gourmet. Revenons au plateau, c'est qu'on ferait, et nous faisons un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour, bien sûr. Isidore Akoleur, 30 secondes.
30 secondes, juste pour dire félicitations aux Togolais et Togolaises qui nous ont appelés pour donner leur avis sur l'actualité. Et ce qui revient, c'est, comment dirais-je, cette histoire de modification de la Constitution qui a causé des dommages et on a tabassé, on a arrêté des gens. C'est ça. Et nous ne souhaitons pas que la chenille revienne dans ce pays. Il va falloir que nos autorités puissent prendre leurs responsabilités pour nous éviter ça. Dialogue ou pas, l'autorité sait ce qu'elle doit faire pour nous éviter des dérapages.
Merci.
Il y a de l'électricité dans l'air.
Merci, merci. Merci Isidore. Eric.
Non, je pense. 30 secondes. Je pense que il y a beaucoup qui se sont intéressés à l'actualité sociopolitique. Toutefois, je remarque, et là, je donne encore raison à la conférence des évêques du Togo sur les informations, sur la culture du mensonge et de désinformation. Les gens continuent par croire ce qu'on leur a dit, que des gens ont été torturés, que des gens ont été tués, etc. Quand vous voyez la réaction d'un compatriote qui dit que tel a été tué, je crois que le mot est tellement fort. Quand vous-même vous ressentez ça, ce n'est pas du tout bon pour nous. Et donc, je crois que ce que les évêques nous demandent de faire, c'est de faire extrêmement attention à tout ce qui passe sur les réseaux sociaux.
Merci Eric. Oui, Jean-Baptiste, 30 secondes.
Oui, je crois que les évêques ont fait leur part de vérité, c'est-à-dire ont donné ce qu'ils peuvent faire comme contribution en tant qu'hommes de Dieu. Mais ils ne sont pas les seuls religieux dans notre pays. Il va falloir que les musulmans, l'Union musulmane, n'a qu'à se prononcer. On sait que son président est...
L'autorité morale.
Oui, c'est ça. L'Union, oui. Et puis les pasteurs aussi n'ont qu'à réagir parce que tous les fidèles... Y
compris la chefferie
traditionnelle. Absolument. Allez-y rapidement.
Donc, ces autorités morales, ils ne doivent pas quand même se recroqueviller sur eux-mêmes et laisser simplement la conférence des évêques chaque fois.
Merci Jean-Baptiste. Oui, Esaïe Edo.
Non,
sinon, ce serait une complicité de leur part.
C'est bon, merci.
Je l'ai dit dans l'émission, je vais le redire encore. Il est quand même temps qu'il y ait une réaction de l'autorité publique, ne serait-ce que pour apaiser l'opinion. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de les écouter. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Enfin, qu'est-ce qu'elles en pensent de la situation? Il faut que qu'elles se prononcent.
D'accord, c'est merci. Important. Merci beaucoup, Isaïe Edo, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur, enfin, le rédacteur en chef de Focus Info. Merci, Isidore Accolor, d'être passé dans cette émission, directeur de publication du journal Actu Express. Merci d'être passé. Merci à Eric Parcoudio-Johnson d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Merci, Jean-Baptiste Tissot, d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal Écho du Monde et aussi du site corps diplomatique news.tg. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions au débat. Merci à vous. Merci à Thomas Etek aussi de la TV qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dacouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.